Bonjour à toutes et à tous. Merci Luc et Solveig. Merci à Pierre qui n'est pas là. Et merci à Eric pour cette invitation. Moi, si j'ai été invité ici, c'est pour travailler avec vous des questions méthodologiques. Et les étudiants à qui j'enseigne, je suis en doctorat à l'Université de Caen, mais j'enseigne depuis 5 ans, ont tendance bien souvent à confondre la méthodologie des techniques d'enquête. Donc je tiens à insister sur le fait que le propos que je développerai sera méthodologique, et donc on étudiera la pratique scientifique et les principes qui guident la pratique scientifique. C'est ce qui permettra en dernière instance, effectivement, peut-être d'aborder un petit peu plus précisément, dans le cadre des questions, les techniques d'enquête mises en place sur mes différents terrains. Si j'ai été invité aussi, c'est que mes terrains questionnent d'une façon particulière le rapport à l'engagement du chercheur et de la chercheuse. Je travaille dans le cadre de l'ANR sur la scène punk Do It Yourself, et dans le cadre de ma thèse, qui porte pas du tout sur le punk, hein, mais sur les fondements socio-historiques du temps social et la façon dont les mouvements sociaux s'approprient ou non la question du temps. Je travaille notamment sur les mouvements dits autonomes ou terroristes, anarcho-autonomes, avec toute la nouvelle langue actuelle. Avant de présenter ces terrains, je dois dire deux mots sur le titre de mon intervention tout de même, et sur ma trajectoire, car c'est celle-ci qui guide quelque part la façon dont je suis entré en sociologie. J'ai mis autonomie punk et sociologie, car vous le verrez, en fait, il y a un continuum dans cette trajectoire et dans cette entrée en sociologie. Je fais partie d'une catégorie en voie d'extinction si la réforme sur la sélection passe à l'université, puisque je suis bachelier en sciences et techniques du tertiaire. Je me suis inscrit en 2004 suite à l'obtention du bac à l'université, comme beaucoup sans trop d'envie. Rapidement, l'université allait m'apporter uniquement une sécurité sociale, et au cours, pendant 2 ans, allait se substituer le travail intérimaire, comme manutentionnaire hein, principalement, et l'organisation de concerts do-it-yourself dans des petits cafés-concerts de la ville de Caen. Peu politisé jusqu'alors, j'allais découvrir quelques idées par le biais des rencontres dans les concerts et des fanzines, et en mars 2006, lors d'un festival à Caen qui s'intitulait Barazik, qui n'existe plus depuis ce moment-là, ce festival consistait en la tenue de concerts dans beaucoup de bars du centre-ville, eh bien la police allait intervenir sur une place où la jeunesse fêtait à son habitude. Une amie, voyant des policiers se déployer et s'en prenant à des zonards, se prit un coup de pied par un des agents de police. Nous sommes alors, avec quelques amis, affectivement intervenus devant ce qui nous semblait injustifié et démesurément violent. Les premiers gaz lacrymogènes partirent et le premier coup de matraque de ma vie me mit en course pour me planquer. Plus loin, des jeunes semblaient être moins apeurés et plus sûrs d'eux. Une barricade se montait au croisement de la rue Saint-Pierre et de la rue Froide, les rues commerçantes du centre-ville. Et un de ces jeunes, nous voyant peu sûrs de nous et relativement apeurés, nous invita à courir en direction de l'université, où, du fait de la franchise territoriale universitaire, la police ne pouvait pas intervenir. Donc 2 ans après ma première inscription à l'université, j'y rentrais pleinement, en pleine nuit, et je découvris donc que les bâtiments étaient occupés. C'est en 2006, c'était la lutte contre le mouvement, contre le contrat première embauche, dont je n'avais jamais entendu parler, pris à la fois dans l'ennui de l'intérim, les fêtes dans les bars marchands, et par ailleurs, la petite vie dans la contre-culture peu politisée. Alors, si je raconte ce moment-là, c'est qu'il s'annonce comme un commencement, comme une brisure du sens. Hein. Ma fréquentation des assemblées, des manifestations, la vie dans les bâtiments allait me conduire à m'intéresser aux formes de vie collective, aux idées politiques, et... dans la continuité de ce mouvement, de me réinscrire à la fac. Cette fois-ci, je crois que j'étais inscrit en LEA la première fois pour avoir la sécu étudiante, et je m'inscris en LLCE sans trop savoir pourquoi, mais ça me permettait de participer le mieux que je pouvais aux luttes sur le campus. Je participais alors avec quelques camarades à la vie aussi des squats à Caen, qui s'étaient ouverts pendant et après les mouvements de 2006 et 2007. Et au fur et à mesure de cet apprentissage, mes concerts servirent également de lieu de diffusion de tracts, de brochures, d'essais politiques sur la musique, par la musique et à partir d'elle. À force d'entendre tous les anciens et les anciennes de ces mouvements sociaux parler de façon relativement brillante et de découvrir qu'ils avaient fait sociologie, j'ai décidé de m'y inscrire également avec l'intention de faire une thèse. Alors, s'inscrire en première année avec l'intention de faire une thèse, ça peut paraître bizarre, mais c'est aussi que j'avais 4 ans de plus que les autres étudiants de première année, et que j'étais à ce moment-là, je commençais mon travail de surveillant, d'assistant d'éducation, et que se posait pour moi une question fondamentale, c'était savoir qu'est-ce que c'était que cette problématique du temps dans l'exercice de la précarité. Puisqu'en effet, le boulot d'assistant d'éducation à la base est un boulot servant à accompagner les études, nous dit-on, et en réalité, les études accompagnent bien plus notre travail, comme dans l'ensemble des travaux. L'expérience du travail précaire va m'amener à publier ma première enquête en Master 1 avec Mathieu L, qui est à l'époque doctorant en géographie sociale, maintenant maître de conférence, enquête qui consistait à s'intéresser au collectif de précaires dans l'enseignement secondaire. Et puis ma pratique de la musique et ma pratique politique dans les squats allaient aussi me travailler, et j'allais me poser la question de savoir comment deux milieux qui semblaient avoir tant en commun, et qui pour moi étaient deux choses relativement importantes, ne se fréquentaient pas davantage, là où, au regard de l'histoire, effectivement, les mouvements dits autonomes et la scène punk se sont largement rencontrés, notamment à Paris, autour des squats, dans les années 80-90. Donc comment cette rupture avait pu être opérée ? C'était une de mes questions. J'engageais ainsi un travail militant en tentant de créer du lien entre ces deux sphères, jusqu'à la création, en 2016, donc 10 ans plus tard, d'un espace autogéré à Caen qui s'appelle La Pétroleuse. Dans le titre de mon intervention, je disais donc dans l'ordre autonomie, punk et sociologie, c'est qu'effectivement, mon entrée en sociologie s'est faite sous la détermination de ces deux engagements. Il allait donc falloir penser comment, tout en partant de ces engagements, pouvoir remplir les conditions de scientificité nécessaires à l'exercice du travail de sociologue. Donc, il convient maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, de présenter les terrains de recherche sur lesquels je suis impliqué. Je ne parlerai pas des collectifs de précaires de l'enseignement supérieur sur lesquels je travaille. Je pense qu'il y a suffisamment de personnes ici qui sont au courant de la précarité à l'université pour qu'on n'en parle pas davantage. Mais effectivement, le premier terrain, c'est celui de la scène punk do it yourself, que je dis choisie, contrairement à une scène punk do it yourself peut-être subie. Donc je renverrai à un article publié dans la revue Volume sur le sujet. Si je dis qu'elle est choisie, c'est qu'en fait le do-it-yourself, quelque part, qui est un objet à la mode en sciences sociales, veut tout et rien dire. On est do-it-yourself quand on construit ses meubles IKEA. Sauf que la revendication du do-it-yourself dans la scène punk est une revendication réelle, qui renvoie pas seulement à de la débrouille, mais à une mise en accord d'un certain nombre de pratiques par rapport à des valeurs. Ces pratiques, j'en ai mis quelques-unes, l'autoproduction, l'autopromotion de concerts, l'autodiffusion, mais aussi, ce qu'on a tendance à oublier, l'autoproduction de la connaissance, notamment par une littérature indigène très riche, très abondante, d'auto-enquête quasiment, et de bilan sur la scène. Ces pratiques, elles sont en accord avec des valeurs, l'anticapitalisme, l'antisexisme, l'antiracisme, et dans une large mesure aussi, notamment sous l'influence de la scène punk hardcore américaine, l'antispécisme. Ces travaux m'ont conduit à poser l'hypothèse d'un communisme punk, hypothèse que je défends dans un ouvrage à paraître en 2019 au Passager clandestin. Donc l'autre terrain de recherche, c'est celui de l'autonomie politique, où effectivement il y a aussi un certain nombre de pratiques qui sont en rapport avec des valeurs. Les valeurs sont relativement les mêmes que celle de la scène punk do-it-yourself choisie. Les pratiques sont celles de la désertion, c'est-à-dire du refus du travail, de la création de zones d'opacité offensive, de méthodes d'auto-organisation des luttes, d'appropriation de l'espace, selon deux modalités principales, le squat, en gros, et puis la stratégie locative d'appropriation de l'espace, le fait de mettre en place des interfaces dans la ville qui permettent notamment la contagion politique, comme peut l'être la pétroleuse, le local qu'on a monté à Caen. Alors, il y a aussi effectivement les formes de vie collective, etc. Donc l'hypothèse de ces travaux de recherche dans le cadre de la thèse, c'était celle de l'impensé temporel. La façon dont l'espace était largement questionné, mais la question du temps l'était largement moins. Donc l'hypothèse était effectivement une hypothèse stratégique que je suis en train de traiter dans le cadre de la thèse. Ces terrains-là ont la particularité, c'est ça qui est intéressant pour celles et ceux qui sont en anthropologie, d'être des terrains hostiles à la recherche. Pour plusieurs raisons, d'une part, de la même manière qu'une recherche menée par Anne Clerval sur les squats de Paris avait échoué du fait d'une homogénéité sociographique du milieu étudié, c'est-à-dire d'une population globalement avec des caractéristiques qui sont celles de forts capitaux culturels, et puis déjà d'une capacité à produire eux-mêmes des réflexions sur leur milieu, sur leur forme de vie, etc. Donc ils sont déjà dans une auto-enquête permanente, donc quelque part le chercheur n'est pas considéré comme légitime à venir enquêter sur ces milieux-là. Et c'est aussi souvent le cas dans la scène punk, parce que là c'était plus le cas des autonomes, mais c'est aussi le cas dans la scène punk où la richesse de la littérature fait que souvent il y a une méfiance à voir des universitaires venir s'approprier une histoire auquel ils n'ont pas participé forcément. Et puis la peur du socio-flic, alors ça c'est plutôt un truc qui concerne les autonomes, c'est-à-dire que la vie dans une relative clandestinité due au processus de renseignement fait qu'on a peur que les monographies, notamment, les monographies sont relativement détestées, puissent permettre d'augmenter la capacité des renseignements de la police. Donc comment accéder à ces terrains qui sont hostiles à la recherche ? Eh bien, sur un accord éthique et sur un principe de confiance, c'est-à-dire un partage des cadres théoriques. Donc il faut avoir une connaissance des cadres théoriques mobilisés par les personnes et un partage des pratiques, car c'est dans l'expérience, la question de l'expérience est très importante, que ce soit pour les punks ou pour les autonomes. Et donc finalement, la chose, c'est de savoir que c'est peut-être plus difficile de chercher à y entrer que d'y être dès le départ. En ce sens, sur la question de l'engagement, je me suis rendu compte que l'engagement était quelque part une passerelle plutôt qu'un obstacle à la scientificité, dans la mesure où quelqu'un qui voudrait de façon totalement hétérogène s'intéresser à ces terrains-là n'aurait aucune information, là où quelqu'un qui était déjà implanté, qui était déjà engagé, aurait quelque part plus facilement accès à ces données. Donc, se pose la question de l'engagement au fondement de la discipline sociologique, puisque est-ce que l'engagement peut être compatible avec la recherche scientifique ? Et donc pour ce faire, étant comme tout doctorant en première année à enseigner les disciplines que les maîtres de conférences et les professeurs d'université ne veulent pas, je me suis retrouvé à enseigner les auteurs classiques de la sociologie. Et donc j'ai dû me taper tout Durkheim, tout un été. Et finalement, à ma grande surprise, j'y ai trouvé des choses passionnantes. Donc j'ai interrogé la question de l'engagement dans mes travaux, à partir notamment de la question de la discipline sociologique dans les travaux de Durkheim et de Marx. L'engagement est effectivement quelque chose qui est relatif à l'affect, et il faut se poser la question de savoir ce que les affects font à la science. Et effectivement, on se rend compte chez Durkheim que la question des affects, là où on a tendance à le voir comme un sociologue froid, est très présente, elle parcourt son œuvre. Les passions, le flot illimité des passions, la question du suicide, de l'anomie, toutes ces choses-là sont affaires d'affect. Durkheim, pour rappel, hein, je ne vais pas faire mon prof de première année, mais définit le fait social comme les manières d'agir, de penser, de sentir extérieures à l'individu et qui s'imposent à lui en vertu d'un pouvoir de coercition. C'est-à-dire que pour Durkheim, il y a effectivement des déterminations sociales, vous le savez, qui nous conduisent, et que ces manières d'agir, de penser, de sentir sont à prendre comme des portes d'entrée pour le sociologue afin de cibler les causes profondes qui échappent à la conscience, nous dit-il, dans la revue philosophique. Donc ces causes profondes qui échappent à la conscience trouvent leur raison dans les institutions, pour Durkheim. Les affects ne sont donc pas uniquement vécus, mais institués. Ils s'imposent à la conscience par des processus qui échappent aux individus, d'où la citation des règles de la méthode sociologique, cet horrible bouquin que vous avez sûrement fait semblant de lire comme tous les étudiants. Si cette puissance de coercition externe s'affirme avec netteté dans le cas des résistances, c'est qu'elle existe quoique inconsciente dans les cas contraires. Alors quand j'avais lu ça, moi je m'étais dit, ok, c'est super. Sauf qu'en fait, ce que nous dit Durkheim, c'est que quelque part, effectivement, quand on résiste à la police par exemple, on se rend compte du poids de l'institution. Pour autant, Durkheim nous dit que si on s'en rend compte quand on y résiste, c'est que cette pression-là existe aussi quand on n'y résiste pas. C'est juste qu'en fait, on n'en a rien à foutre. Donc nous sommes alors dupes d'une illusion qui nous fait croire que nous avons élaboré nous-mêmes ce qui s'est imposé à nous du dehors. Mais si la complaisance avec laquelle nous nous y laissons aller masque la poussée subie, elle ne la supprime pas. Alors même que nous avons spontanément collaboré pour notre part à l'émotion commune, l'impression que nous avons ressentie est tout autre que celle que nous eussions éprouvée si nous avions été seuls. Façon relativement compliquée d'expliquer ce phénomène, alors qu'au final, il s'agit juste de dire que c'est la résistance qui, quelque part, dégage la force, la poussée de l'institution. D'un point de vue de la tradition sociologique française ou socio-anthropologique, les affects, les manières de sentir, font donc pleinement partie du champ de la sociologie. Ils constituent, comme les pratiques, les manières d'agir et les discours, les manières de penser, des éléments d'explication du social. Et s'ils sont en partie déterminés socialement, ils peuvent donc acquérir une dimension collective en ce qui les fonde et en ce qui en découle. Reste néanmoins l'intérêt de marquer la limite du sens de l'affect dans la démarche de Durkheim. Certes, les affects doivent être sociologiquement abordés, mais ils doivent l'être de façon désaffectée, autant que faire se peut, en tant que chose, nous dit Durkheim. C'est souvent la critique majeure qui a été faite à Durkheim, cette idée de chose. On lui a souvent reproché le caractère infructueux de ce qu'il appelle cette attitude mentale, qui tendrait à chosifier le social, à immobiliser ce qui est vivant. Mais pour Durkheim, il s'agit davantage d'un effort de distanciation affective qui conduit à opposer la chose à l'idée, c'est-à-dire l'extériorité de la chose qui se met devant nous, à l'intériorité de l'idée qui pousse en nous. C'est d'ici que les manières de penser et d'agir et de sentir ne peuvent être étudiées par la simple introspection, nous dit Durkheim, mais qu'il ne peut y avoir que l'expérimentation scientifique qui permet de les aborder. Quelque part, on va retrouver des choses similaires dans l'œuvre de Marx, qui s'emploie à trouver les causes de l'aliénation, cette expérience de l'écrasement, nous dit-il, donc quelque chose de relativement affectif, ce sentiment de dépossession et de perte de soi. C'est encore aux racines, puisqu'il faut être radical, aller aux racines, d'une philosophie matérialiste qui, comme la sociologie durkheimienne, tend à se distancier à partir de l'observation de faits concrets, l'explication du sens qui fonde la démarche. Sans professer un cours sur le concept d'aliénation, parce qu'il y a de très bons numéros de la revue actuelle Marx là-dessus, notons tout de même que pour Marx, comme pour Durkheim, les conduites sociales sont influencées par des puissances extérieures, vous le savez. C'est que pour le sociologue comme pour Marx, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être social, c'est davantage leur être social qui détermine la conscience des hommes. Il va donc chercher Marx, comme Durkheim, dans les manifestations antécédentes des faits sociaux, des rapports sociaux, les causes qui président à leur accomplissement. Donc, bien que Durkheim ait exprimé ses divergences avec le philosophe allemand, bien qu'il ait dissimulé le fait de le connaître, mais que Mauss révélera qu'en fait il était un grand lecteur, Un commun certain unit les auteurs dans la démarche et dans les analyses, à la fois la méthode historique, qui est importante pour eux, mais également aussi cette question des manières d'agir, de penser et de sentir, qui va guider quelque part leur recherche. Si pour Durkheim, on prend conscience de ces manières d'agir, de penser et de sentir, que lorsqu'on oppose des résistances, c'est chez Marx et Engels qu'on trouve sûrement l'explication la plus pertinente de ce qui fonde nos affects et notre rapport au monde. Dans l'idéologie allemande, ils nous disent en effet « La puissance sociale, c'est-à-dire la force des productifs décuplés qui naît de la coopération des divers individus conditionnés par la division du travail, n'apparaît pas à ces individus comme leur propre puissance conjuguée. Elle leur apparaît au contraire comme une puissance étrangère située en dehors d'eux, dont ils ne savent ni où elle vient, ni d'où elle va, qui ne peuvent donc plus dominer et qui, à l'inverse, parcourent maintenant une série particulière de phases et de stades de développement, si indépendantes de la volonté et de la marge de l'humanité, qu'elles dirigent en vérité cette volonté et cette marge de l'humanité. » Voilà, c'était du Bourdieu avant l'heure. Où Durkheim voit dans les institutions, qu'il analyse lui aussi comme les causes des déterminismes et donc des inégalités sociales, le salut de la condition humaine, Marx y verra plutôt la projection d'un ordre naturel qui s'objectivise et invisibilise les rapports de force qui déterminent les conduites des individus, les dépossèdent et les aliènent. La conséquence est alors que ce qui apparaît naturel et objectif ne l'est pas. La reproduction des rapports de domination, aussi injuste et infondée soit-elle, n'apparaît donc pas comme telle, et ce qui lui résiste semble alors contre-nature et illégitime. Pour Marx, l'aliénation ne se réduit pas aux rapports d'exploitation qui découlent de la propriété des moyens de production, bien évidemment. La division du travail manuel et intellectuel constitue un appui fort aussi pour la bourgeoisie, qui peut, par la détention du savoir et par la formulation du savoir légitime, légitimer sa domination. Puisque je cite encore l'idéologie allemande, chaque nouvelle classe qui prend la place de celle qui dominait, elle est obligée, ne fût-ce que pour parvenir à ses fins, de représenter son intérêt comme l'intérêt commun de tous les membres de la société, ou pour exprimer les choses sur le plan des idées. Ainsi, la classe qui exerce le pouvoir à travers l'État et son maillage institutionnel reproduit autant de manières d'agir et de sentir, mais surtout de penser, qui correspondent à un mode de production déterminé, et lui permet de persévérer dans son être social. Voilà qui, une fois démontré, conduirait logiquement, en respectant les fondamentaux méthodologiques durkheimiens, à remettre en cause toute idée reçue comme une vérité objective, et à réconcilier alors les deux auteurs, avec Max Weber, pour qui le doute radical est le père de la connaissance. Considérer que la recherche scientifique dans une société de classe, si elle est institutionnellement produite, n'est donc pas totalement neutre, et que ce qu'on entend par neutralité n'est au final que l'écho de ce que René Louraud appelle le champ de cohérence rationnelle qui vibre de la rencontre entre la production intellectuelle et l'organisation sociale. Prendre Marx et Durkheim au sérieux, à la racine donc de la sociologie, c'est s'assurer de deux choses, se penser soi-même et son métier de chercheur comme étant pris dans des rapports de pouvoir et des rapports de force socio-historiques, et comme participant aussi, par notre rôle de chercheur, à la production du savoir dans une société de classe. Ce qui nous place, dirait Alain Bire, entre bourgeoisie et prolétariat. S'écarter des prénotions signifie alors adopter une attitude mentale critique vis-à-vis de ce que l'institution scientifique produit comme neutre, et s'assurer que nos affects, bien qu'ils persistent, soient mis en but par l'observation de faits concrets. C'est en surplomb considérer que les institutions, en ce qu'elles produisent des manières d'agir, de penser, de sentir, n'épargnent pas non plus les chercheurs, et que ces derniers sont nécessairement engagés dans des rapports sociaux qui les dépassent, bien qu'ils puissent les observer. Partant de là alors, le chercheur est nécessairement engagé. S'il est engagé, il est engagé pour le même, le neutre, ce qui apparaît comme neutre, ou il résiste, et là il se rend compte de la poussée subie de l'institution. Conclusion d'étape, les institutions pour Durkheim socialisent les individus, les institutions sont la cristallisation des rapports de force historiques, les individus quelque part déterminés et engagés dans des rapports sociaux qui les dépassent, la division du travail stratifie la société. Question bête alors, le chercheur est-il un individu ? Ou une individu ? Réponse bête, oui bien sûr. Le chercheur est donc engagé lui aussi dans ses rapports sociaux et occupe une place particulière dans la division du travail, et donc dans la société de classe. Convient alors de se défaire des affects pour l'exercice scientifique. La démarche rationnelle conduit la science, notamment dans la tradition occidentale, amène à se distancer des affects. C'est-à-dire que le chercheur doit objectiver pour neutraliser ses propos. Si la science est construite sur le principe d'objectivité qui soutient que le regard du savant ne doit se porter que sur ce qui est directement observable, les conditions de l'exercice du travail de savant ont largement changé. L'objectivité était alors un principe méthodologique permettant d'évacuer les prénotions, mais était tout de même conduite par des principes philosophiques que les auteurs de l'encyclopédie ont toujours assumés et qui ont à terme posé les premières pierres de l'État moderne. Henri Lefebvre, dans De l'État, nous dit d'ailleurs « L'État s'établit autour de l'axe du savoir et le consolide en l'institutionnalisant pour en faire son pivot. L'État moderne est rationnel. » Au même titre que la philosophie des Lumières l'était. La relation étroite, donc, qui apparaît entre science et pouvoir, et qui a largement été explorée par la philosophie et la sociologie, nous amène à penser que le capitalisme en tant qu'organisation sociale, en tant que politique du capital, qui s'appuie sur le principe d'accumulation, trouvera dans la science un outil de promotion de la production grâce à l'innovation technique comme source d'un progrès inépuisable. D'où le fait que les premières recherches financées par l'État ont d'abord été militaires, puis ont porté sur le travail, le développement des manufactures, etc. C'est-à-dire qu'en mimant la dynamique cumulative du capital et en se mettant au service de sa reproduction, la science appliquée au travail est un cas tout aussi manifeste de cette dynamique que la recherche appliquée à la guerre. Et il n'y a qu'à voir le nombre d'appels à projets encore pour les recherches en post-doctorat ou en doctorat qui sont financés par les lobbies de l'armement ou de l'armée. La relation qui unit l'État moderne, son économie politique et la science les font entrer dans une relation d'interdépendance qui oriente la science sur deux domaines, la production d'une part et le contrôle social de l'autre. En effet, l'institutionnalisation de la science a fait naître la dichotomie entre le savoir et le non-savoir, ou ce qu'on pourrait appeler en durkheimien ou en bossien, entre le sacré et le profane, faisant ainsi tomber toute production théorique et toute expérimentation extra-académique dans la sphère du non-savoir. Tout produit intellectuel n'est de l'ordre du savoir que si la communauté scientifique le juge vrai selon ses critères de production. Le métier de chercheur n'existe in fine que dans la sphère académique, où il consiste à appliquer des protocoles objectifs, détachés de toute prénotion et de toute dimension affective, et ces principes sont à la fois les conditions de réalisation de ce travail, autant que les fins de ce travail. Mais se pose alors la question, puisqu'on le disait avec Marx et Engels tout à l'heure, qui sont les scientifiques ? Peuvent-ils vraiment être dégagés de toute prénotion et de toute dimension affective ? Sont-ils les hérétiques d'autrefois ? Eh bien, ils sont, avec la naissance de l'État moderne et avec les premières institutions de recherche, notamment au début dans les sciences dures, puis progressivement après la guerre avec la sociologie en fera partie, avec la création du centre d'études sociologiques sous Gurvitch, ils sont des salariés, qui comme les autres sont soumis à des formes d'aliénation qui viennent masquer la poussée subie de l'institution. Produits de l'institution scolaire et œuvrant à sa reproduction, les chercheurs produisent à leur tour une grammaire normative qui, par l'intériorisation de schèmes, de catégories d'analyse, en reproduisent de nouvelles qui sont légitimées par la forme similaire qu'elles ont aux précédentes. Si bien que les travailleurs scientifiques sont par leur fonction d'inculcation et de reproduction des rapports sociaux, quelque part, du côté des dominants. Objectivement, je veux dire. Hein, ça ne veut pas dire que subjectivement, ils ne puissent subvertir leurs conditions. Membres de la classe de l'encadrement capitaliste, selon les mots de Alain Beer, ils agissent à la reproduction de l'institution et des rapports de domination, ce qui leur confère, en contrepartie, le rôle de détenteur du savoir légitime. Marx lui-même démontrait que, parce qu'on pourrait se dire que c'est assez triste ce que je raconte, mais Marx lui-même démontrait que la bourgeoisie était elle aussi aliénée et capable de subvertir sa position de dominant. Dans la division du travail scientifique contemporaine, cet objectivisme permettait largement de subvertir sa condition dominante. D'où le fait qu'il y a une grande tradition, notamment en France, d'intellectuels révolutionnaires qui ont été liquidés dans les années 80-90. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire qu'on est révolutionnaire à l'université. Et ça vient du fait que, à mon avis, à l'objectivisme est venu se substituer un autre phénomène qu'on appelle l'opérationnisme, qui représente le neutre aujourd'hui. L'opérationnisme, c'est une idéologie de la science opératoire, non seulement comme outil de légitimation de l'ordre, qui n'est plus seulement juxtaposé à l'économie, mais qui s'y soumet. Alors que la science fonde dans la société de classe la distinction entre le savoir et le non-savoir, l'opérationnisme confère l'exercice du pouvoir à ceux qui ne se heurtent pas à l'instituer, mais plutôt à ceux qui s'y plient. À ceux non pas qui savent, mais qui sont jugés compétents à diriger des recherches. Si bien qu'à la division spécialisée du travail scientifique s'ajoute une division fonctionnelle, classique dans la sociologie du travail, en milieu ouvrier, entre encadré et encadrant. Ceci n'échappera pas aux chercheurs en sciences humaines, puisque, comme les autres sciences auparavant, on gère la pénurie budgétaire en se soumettant aux commandes du privé, ce qui est un vrai travail délicat. Et on ne peut pas faire sans, en réalité. Le travail scientifique, qu'il se veuille critique ou non d'ailleurs, est assailli par cette idéologie qui entraîne des mutations structurelles qui influent nécessairement sur la production intellectuelle. Nous sommes en tant que chercheurs, répétons-le, engagés dans et par des processus qui nous dépassent et qui pourtant orientent notre appréhension du travail. L'attitude générale du scientifique, qui du haut de sa tour d'ivoire croit échapper d'une part à la force de ses affects et d'autre part au poids des structures sociales, devient alors un doux mirage qui, comme un oasis perdu dans le désert, n'est qu'une illusion, tour de l'esprit venant soulager du désespoir qui a affaire à cette triste réalité de n'être pas si libre que nous le pensions. Ainsi, le savoir institué prétendument objectif n'interdit pas les mystifications, nous dit Lefebvre, au contraire, il les engendre et les couvre. Alors si nous sommes engagés effectivement dans notre travail et engagés dans des rapports sociaux qui nous dépassent, effectivement, nous ne tombons pas nez à nez avec un objet de recherche, comme un heureux hasard qui nous conduira à l'étudier. Faut-il le nier ? Doit-on refouler cette attraction et choisir des objets desquels on serait plus distant ? La question se pose, et certains le pensent. Mais dans ce cas, il resterait des affects, conséquences du renoncement. Affects tristes au sens spinoziste, qui rendront peut-être plus éprouvante la recherche, plus difficile. Accepter la place déterminante des affects dans une recherche n'est, je crois, pas faire défaut de raison. Il me semble d'autant plus raisonnable et rationnel de faire face à leur inéluctabilité, qui permet notamment, par le fait de se laisser aller à des affects de joie, plus facilement de subvertir sa position et de contourner les dispositifs opératoires. Décréter la neutralité suffit-il, comme le posent bien souvent les agents du savoir institué ? Alors que la raison scientifique trouve son expression actuelle dans le refus de se poser des fins autres que ses propres moyens, c'est-à-dire trouver de l'argent pour faire de la recherche plutôt que de faire de la... En gros, répondre à des commandes, comme c'est le cas, j'imagine, pour celles et ceux qui sont en doctorat ou qui vont être en doctorat, de répondre à des appels à projets sur des sujets qui vous sont totalement étrangers. Je pense par exemple à une collègue à Caen qui, à la base, travaillait sur la némésis médicale autour de l'Ivan Illich, etc., en socio-anthropologie, et qui se retrouve maintenant à travailler sur l'éolien, parce qu'il fallait bien bouffer. Mais comment, en fait, cette dynamique-là du savoir opératoire conduit non plus à ce que la recherche en elle-même soit une fin, mais que les moyens d'arriver à cette fin deviennent les fins eux-mêmes, c'est-à-dire que finalement, on va se retrouver à bosser sur ce qui nous permet de manger. Donc, considérant que l'acte d'objectivation est une étape de la recherche, certains chercheurs ont essayé de poser cette question-là. Comment faire avec tout ça ? Le plus célèbre est bien évidemment Pierre Bourdieu, qui propose d'appliquer des protocoles d'objectivation aux enquêtes. Si le but de la démarche scientifique est bien d'objectiver, c'est-à-dire de traiter des faits sociaux comme des choses, le chercheur, en tant qu'il entre en relation avec l'objet observé, intervient nécessairement dans l'observation. Alors ça, on a tendance à le reprocher aux anthropologues bien souvent, hein, puisque les anthropologues interviennent dans la relation d'enquête, dans l'observation, etc. Mais c'est la même chose pour les enquêtes quantitatives, puisque la construction des variables conditionne aussi l'architecture du questionnaire. L'objectivation participante de Bourdieu contient quelques limites. Pour autant, elle me semble intéressante dans les trois points qu'il développe. Donc, je vous ai mis la citation. Le travail d'objectivation du sujet de l'objectivation doit être mené à trois niveaux. Objectiver la position dans l'espace social global du sujet de l'objectivation. Objectiver ensuite la position occupée dans le champ des spécialistes. Objectiver tout ce qui est lié à l'appartenance à l'univers scolastique en portant une attention particulière à l'illusion de l'absence d'illusion du point de vue du pur, absolu, désintéressé. Donc, si elle me semble intéressante, elle contient des limites, je pense. Bien qu'elle s'appuie sur une réflexivité dont la nécessité est difficilement contestable d'un point de vue scientifique, même par des sociologues au postérieur les plus soudés à leur chair, il reste qu'en première analyse, l'enquête se structure autour d'hypothèses, apparentées à la fois à des connaissances théoriques, mais aussi à des intuitions, ce que Lefebvre nommait l'intuition brusque. Et en dernière instance, s'interprète en fonction de ce cadre théorique. Donc la fameuse querelle entre explication et interprétation, quelque part, elle est résolue depuis longtemps, on sait qu'il y a forcément des deux. Et il me semble qu'en fait, chaque chercheur dans sa recherche, depuis ses intuitions, depuis ses affects, produit quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'une recherche sur un même objet peut conduire à des choses relativement différentes, parce que les approches de l'objet ne sont pas les mêmes. Et tout cela dépend de la perspective du chercheur. Ce que je nomme perspective, avec Salvador Jouan, mon directeur de thèse, qui avait publié un article de méthodologie dans le bulletin de méthode sociologique en 1995, la perspective, c'est une posture théorique du chercheur singulier qui exprime son identité institutionnelle et scientifique. À cet égard, l'appartenance permanente ou ponctuelle à une tradition théorique tient de l'emboîtement paradigme, modèle théorique, hypothèse. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est de mon cas, mon aspiration à l'émancipation du salariat, à la lutte contre les dominations capitalistes et patriarcales, mon vécu de la précarité et des violences policières, la surveillance par les renseignements généraux, mon engagement dans les luttes collectives, avant, pendant et après mes études, ont influencé la construction de ma perspective. La confrontation avec des cadres théoriques issus de mes milieux d'enquête ont aussi influencé ma perspective. De notre manière, puisqu'on pourrait me dire que je ne suis pas neutre, l'amour du même, les intérêts de classe, le greenwashing, ont orienté le cadre théorique d'autres de mes collègues. Et ce n'est pas un problème en réalité, si on le pose comme tel. Et le structuralisme de Bourdieu, le structuralisme génétique, n'a pas plus de légitimité à exister comme perspective théorique qu'une autre. On peut discuter de la pertinence d'une perspective en fonction de son champ d'application. Mais c'est toujours la communion des affects et de la raison qui conditionne cette construction du cadre théorique et de cette perspective, qui fonctionne sur un principe d'adhésion à un certain nombre d'idées, à un certain nombre de conceptions de la recherche. Et c'est fondamental pour comprendre la critique que l'on peut faire à la méthode de Bourdieu, dans son aspect limitatif encore une fois, car elle est pertinente à bien des égards à mon avis, et elle est souvent oubliée. L'erreur principale de Bourdieu, je pense, c'est pas tant l'aspect technique de ce qu'il peut raconter, que la façon dont il limite le rôle du sociologue et même de la connaissance à l'espace de la production intellectuelle. Dans la sociologie bourdieusienne se maintient la légitimation de la fonction de l'intellectuel que nous avons préalablement identifié avec Marx et Engels à une division de classe. En maintenant l'assignation du travail scientifique à la simple production idéale, le théoricien de la reproduction dans ce cas oublie que dans le capitalisme, quiconque nourrit un homme en est son maître, et que donner des idées à digérer à la plèbe ne fait que reproduire la domination symbolique qu'il a tant critiquée. Si la sociologie bourdieusienne a le mérite de montrer les dominations, elle n'entérine pas pour autant la domination symbolique de la figure de l'intellectuel, ni même la domination de classe exposée dans l'idéologie allemande. Je renverrai sur la figure de l'intellectuel à un petit ouvrage de... un petit ouvrage de Manuel Cervera-Marsal pour un suicide des intellectuels qui est assez éclairant. Alors que Bourdieu fonde une théorie remettant en cause la domination des élites et sa reproduction, il voit en l'État, quelque part, le rempart de l'économie capitaliste. Là où une lecture socio-historique y verra un pivot, ce qu'on a fait avec Lefebvre tout à l'heure. Même lorsqu'il allume ses contre-feux, la figure de l'intellectuel engagé semble bien pâle, invitant les sociologues à travailler avec les organisations syndicales, et non pas avec les syndiqués. Il s'adresse aux dirigeants des organisations syndicales. Il reproduit quelque part une séparation du savoir. Et pourtant, Marcel Mauss déjà nous mettait en garde de cette posture-là. Le service principal, nous disait-il, que les sociologues ont rendu jusqu'à maintenant et rendront de plus en plus à la politique, par une théorie de la politique elle-même, consiste donc à faire sentir à quel degré les problèmes politiques sont des problèmes sociaux. Ils auraient par suite le plus grave tort si, pour ne pas verser dans l'erreur commune, ils restaient tous dans leur tour, s'ils s'abstenaient tous de prendre parti, s'ils laissaient la politique aux théoriciens politiciens et aux théoriciens bureaucrates. Encore raté, je crois, la critique bourdieusienne fait face aux mêmes problématiques que la critique durkheimienne. Elle expose les fondements des déterminismes institutionnels, mais cherche en finalité à les sauver, en maintenant les institutions comme salut de la condition humaine. Est-ce à croire que la sociologie, en tant que science se constituant au sein de l'État moderne, au XIXe siècle, dans un système capitaliste, contient en elle-même les limites de sa portée critique, ce que suggéraient déjà les situationnistes. Que les sociologues sont piégés, condamnés à reproduire les dominations qu'ils exposent. D'une certaine manière, oui. La critique sociologique, Nisbet le disait, se situe au carrefour des trois formes de critique libérale, conservatrice et radicale. Que la sociologie de Bourdieu couvre d'ailleurs également. Et en tant qu'elle se forme depuis l'institution universitaire, elle tend à se reproduire en reproduisant les dominations institutionnelles. Néanmoins, la critique radicale n'est pas impossible. Et un courant particulier de la sociologie permet d'apporter des éléments de méthode visant la constitution d'une perspective et d'une approche critique et radicale qui se fondent par l'insertion dans l'action collective émancipatrice. Ces approches et perspectives n'écartent pas les écueils de ce que Wallerstein appelle les vociférations arrogantes des intellectuels et contiennent le risque de glisser vers un messianisme douteux qui confère aux intellectuels le rôle historique du pâtre guidant les moutons. Si les sciences sociales ont vraiment quelque chose à offrir au monde, ce n'est pas tant en s'exprimant dans les espaces institutionnels dans lesquels ils garderaient la posture éloignée de l'intellectuel, que dans une double démarche institutionnelle et extra-institutionnelle qui fonctionnera en aller-retour, ce que le projet PIN essaie de mettre en place, notamment par les journées d'études, ouvertes aux activistes de la scène punk pour une discussion et un dialogue entre universitaires et entre activistes. Cette tradition sociologique relativement oubliée, c'est celle de l'analyse institutionnelle, qui propose d'intégrer les implications du chercheur, ses affects, plutôt que de s'en distancier. D'intégrer dans la perspective de recherche l'interférence entre la position sociale et la perspective de recherche. Donc, citation de René Loureau dans un article de L'Homme et la Société, « L'interférence permanente, il y a une faute, et non ponctuelle à la façon d'un devoir de distanciation éthique ou déontologique entre le monde de la recherche et le monde de la vie et ce qui produit l'implication du chercheur dans l'institutionnalisation de la recherche comme force sociale séparée de la recherche collective du bonheur. » C'est-à-dire que si les sciences sociales se redonnent pour but, effectivement, le fait d'être engagé, et engagé dans quelque chose, c'est bien dans celui de la recherche du bonheur. La radicalité de la démarche passe notamment par son terrain et sa méthode, c'est-à-dire par l'intervention en dehors de l'espace de production académique et de ses conditions de déroulement. Si l'analyse institutionnelle vise à montrer les dominations, les déterminismes institutionnels, elle le fait par ce qui leur échappe, en concentrant ses recherches sur des terrains critiques, grève non institutionnelle, insurrection, occupation de lieux administratifs, squat, lutte dans l'éducation, contre la psychiatrie, prise de parole, passage à l'acte chez les paysans et les commerçants, désertion de la famille, de l'école, du travail, etc. Autant de terrains critiques qui permettent de montrer le déjà-là de la contestation. Parce que ces terrains échappent à l'institution, ils ont une double valeur qu'il s'agit de prendre en considération. D'une part, ils permettent de révéler la violence des déterminismes en cherchant les causes profondes qui ont fait émerger ces faits sociaux. C'est la partie sociologique de l'étude. D'autre part, justement, en ce que ces faits rompent avec les déterminismes, ils permettent de dégager des possibles en vue de l'émancipation des virtualités. Et ça, c'est la dimension stratégique de la science sociale. Mais le traitement méthodologique de la construction de l'objet à la restitution des données doit également être interrogé pour que la perspective radicale de la démarche soit soutenable. Travailler sur ces foyers de résistance, conscient ou non, ne signifie pas nécessairement rompre avec la démarche traditionnelle de la recherche et peut aussi participer à l'élaboration de la posture du socio-flic qui, en faisant ses monographies, quelque part, n'apporte pas grand-chose à la communauté qui l'étudie, mais davantage au monde extérieur. Il s'agit donc, au même titre que Buravoy le proposait, de partir des attentes et des attendus du milieu étudié pour réussir à avoir une recherche qui, clairement, ne concerne pas uniquement le monde académique. On pourrait bien évidemment reprocher à ce discours une entreprise de délégitimation de l'aspect scientifique de la sociologie. Mais il n'en est rien, tout au contraire, il ne s'agit pas d'une volonté d'abattre la sociologie, mais davantage de l'étendre, comme disait René Louroux. L'objectivation, lorsqu'elle est pensée comme un aval du processus de recherche, nie le poids des affects dans la construction même de l'objet. Au contraire, l'analyse de l'implication proposée par l'analyse institutionnelle vise à les rendre visibles, vise à rendre visibles nos affects et à permettre que l'objectivation n'appartienne pas tant que cela au chercheur qu'au récepteur de la recherche. Et c'est lui qui pourra, en voyant notamment les affects qui structurent la recherche, déterminer les moments où les affects rentrent en compte ou non dans le protocole de recherche. René Louroux disait par ailleurs que dans les techniques d'enquête qui pouvaient être mises en place, le journal en était une intéressante, donc il s'inspirait de l'anthropologie, en ce qu'elle tendait à mettre le résultat final à l'épreuve de ses conditions de réalisation, ce qui est la moindre des choses, dit-il, dans une démarche qui se veut réellement scientifique. Cette dernière ne consiste-t-elle pas à exposer la méthode suivie en vue d'une fin, à savoir l'ensemble des techniques, moyens, outils et conditions de la recherche. Qui plus est, dire d'où l'on parle plutôt que de le dissimuler permet de donner, au-delà du discours produit par le chercheur, la possibilité au récepteur de coproduire le sens par la confrontation des implications et des analyses émises aux implications de celui qui les reçoit. Et bien évidemment, ceci oblige à penser à qui sont au final destinés les résultats de l'enquête, aux garants de la domination ou à leurs opposants. Pour conclure, j'ai tenté de présenter de façon méthodologique et épistémologique la façon dont les sciences sociales, et plus particulièrement la sociologie, étaient compatibles avec l'engagement, et plus encore la façon dont les chercheurs étaient nécessairement engagés, même lorsqu'ils le niaient. Cette réflexion que je mène depuis plusieurs années émerge bien évidemment de mes implications, de mon vécu de la précarité, je l'ai dit, qui a alimenté des recherches sur les conditions de résistance au déterminisme des contraintes. Depuis le commencement de la thèse, qui n'était pas financée, cette réflexivité sur la position du chercheur s'est intensifiée. Les politiques universitaires en matière de recherche soumettent de plus en plus les doctorants à des recherches orientées sur des objets dont la construction leur échappe. Qu'elles soient téléguidées par le ministère, la région ou le bassin économique local, le fameux bassin économique local auquel il faut répondre, certains chercheurs s'inscrivant dans les traditions critiques se trouvent contraints d'accepter ce type de contrat. Leur reflux plongeant généralement dans une gymnastique de la précarité qui appelle à faire le pont tout en ayant deux voûtés, entre Pôle emploi et le vacatariat. D'autres, n'assumant pas la critique institutionnelle, la critique du capitalisme, trouvent dans la précarité économique et la vulnérabilité sociale l'occasion de recycler leur expérience du salariat forcé, le temps de leur recherche dans leur protocole méthodologique par euphémisme scientifique. Et l'université n'est alors plus uniquement une instance de légitimation du savoir institué, conférant ainsi une place privilégiée dans la société de classe à ceux qui la composent. Elle devient un lieu de précarisation qui peut conduire les chercheurs à renouer, par leur vécu, avec une posture critique vers une théorie et une pratique émancipatrice de la recherche et par la recherche. Cette position étant relativement complexe, matériellement du côté du prolétariat, symboliquement du côté de la bourgeoisie. Ceci passe, je pense, par une production d'un savoir critique, mais aussi par la mise en place de méthodes de recherche qui permettent aux fins que l'on s'en fixe de s'articuler avec les moyens qui y correspondent. Défendre une perspective radicale en sciences sociales signifie alors rompre la séparation entre la sphère de la production du savoir légitime et la sphère du non-savoir. Assumer que des fins puissent guider nos recherches, se donner la possibilité de faire émerger des virtualités stratégiques visant l'émancipation, et faire ce qu'il est en notre mesure pour les réaliser. René Louroux, enfin, disait encore « Quand tout un monde, celui du savoir institué, se lézarde, ce n'est pas de nouvelle idéologie critique dont on éprouve le besoin, mais de pratiques de plus en plus radicales. Il s'agirait donc peut-être, pour le bien de la communauté des socio-anthropologues, que celle-ci se constitue enfin au sein du monde académique, de la même manière que le cortège de tête le fut dans les manifestations traditionnelles. C'est-à-dire non plus en institution de reproduction, mais en machine de guerre destituante. Bien sûr, cette perspective, portée depuis une situation de précarité, un engagement révolutionnaire, pourra être envoyée à l'immaturité, à la vulgarité, à tous ceux qui, quelque part, échappent au code de l'institué, et il est fort à parier que, même de la même manière que le punk vit en marge du courant moyen, dans l'underground, cette sociologie radicale ne soit pas vraiment une passerelle vers l'emploi. Mais dans la situation critique qui est celle de l'enseignement supérieur et de la recherche aujourd'hui, peut-être faudrait-il admettre, comme on l'admet ailleurs, que quelque part l'époque appartient aux acharnés. Je vous remercie.